N'ayez pas peur. Je ne vous veux pas de mal.
D'où venez-vous, madame?
Je viens du ciel.
Mais que venez-vous faire ici?
Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant 6 mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux.
Vous dites que vous venez du ciel? Et moi, est-ce que j'irai au ciel?
Oui, tu iras.
Et Jacinta?
Elle aussi.
Et Francisco?
Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets.
Bernard et Christine, bonjour.
Bonjour,
bonjour
Sandra.
Et bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima, d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoureaux de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Amen.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. » Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
Lucie nous confie.
Je m'adresse à ceux qui ont la foi comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu, car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier. Mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima. Message que Dieu a voulu me confier à l'attention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu reconnue par les instances autorisées. Et j'offre pour tous le sacrifice que ce travail demandera de moi.
Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoureaux de la Cova d'Airia, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous pèlerins de la paix, nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi. C'est à peine si j'en avais quelque idée. Une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant, tel que je l'étais à l'époque, un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science. Et quoique plus tard j'ai vécu dans des milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture. Et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète.
N'ayez pas peur. Écoutez-moi. Je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu.
Mon Dieu.
Mon Dieu.
Je crois.
Je crois.
Je crois.
J'adore.
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 J'espère.
J'espère.
Et je vous aime.
Et je vous aime.
Et je vous aime.
Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon.
Je vous demande
pour
pardon.
Ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui ne croient pas.
Pour ceux qui
n'adorent
pas.
Qui n'adore pas,
qui n'espère pas,
qui n'espère pas,
et ne vous aime pas,
et ne vous aime pas,
et ne vous aime pas.
Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.
Aussitôt après l'appel à la charité, le message nous demande le pardon. Il nous amène à demander à Dieu pardon pour nos frères et aussi pour nous, pour ceux qui n'ont pas la foi et pour ceux qui croient, pour ceux qui n'adorent pas et pour ceux qui s'inclinent devant Dieu, pour ceux qui n'espèrent pas et pour ceux qui ont confiance, pour ceux qui n'aiment pas et pour ceux qui pratiquent la charité.
Lucie, aujourd'hui, le pardon oscille entre l'impossibilité et la trivialité, entre profondeur et superficialité. Il s'agit soit d'un acte moral exceptionnel, voire impossible, et qui semble défier la capacité d'une réponse morale en la mettant à l'épreuve, soit d'un acte devenu trop facile et donc trop possible. Comment peut-on vouloir offrir un cadeau à son offenseur? Comment peut-on décider d'aimer son offenseur? Nous sommes d'accord, le pardon semble impossible. Il semble illogique et complètement opposé à notre culture du mérite. Pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, voire traumatisé pour le reste de vos jours, n'est pas toujours facile. Comment laisser entendre qu'un enfant ou une femme victime d'un père ou d'un mari violent et abusif pourrait, voire devrait, pardonner le mal subi? N'est-ce pas encourager l'injustice? Pouvons-nous pardonner même à ceux qui ne le demandent pas? Se venger est un réflexe naturel souvent évoqué dans la Bible. Genèse 4, 13, 15, 24. Le plus souvent, la vengeance se transforme en escalade de la violence. C'est pourquoi l'Ancien Testament y met une limite. Exode 21-23. La vengeance donne l'impression de rétablir la justice. Elle soulage temporairement la souffrance intérieure. Et nous, très souvent, de nous révolter, « Seigneur, il ne mérite pas mon pardon. » Souvent, l'envie nous prend de saisir l'autre au collet, « Rends-moi ce que tu me dois. Rends-moi ce que j'ai fait pour toi. » « Rends-moi cette vie que je t'ai donnée, cette fidélité que je t'ai gardée. »
Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle la prière dominicale, nous a appris à demander « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Comme nous le voyons, nous ne pouvons obtenir de Dieu le pardon sans avoir d'abord pardonné à nos frères. Nous ne pouvons donc pas éprouver du ressentiment, de la mauvaise volonté, de l'aversion et moins encore des désirs de vengeance pour quelque offense que ce soit, grande ou petite, que nous ayons reçue de notre prochain. Notre pardon doit être généreux, total et capable de sacrifice, en ce sens qu'il faut nous vaincre nous-mêmes. Il sera nécessaire de faire taire en nous le cri de la révolte, de calmer notre nervosité, de garder fermement le contrôle de notre caractère et de réduire le bouillonnement de notre amour propre offensé, un amour de nous-mêmes qui se sent blessé et irrité, que ce soit avec raison ou non.
Lucie, il y a la Shoah et le génocide rwandais, les fusillades dans les écoles, les viols, les divorces et les innombrables actes de malveillance ou de trahison qui ont touché chacun de nous à divers moments de nos vies. La vieille notion religieuse du pardon, qui servait principalement à régler les rapports de l'homme à Dieu, a pris la forme d'un problème politique. La société a-t-elle le droit moral de pardonner toutes sortes de crimes? Peut-elle le faire sans se nuire à elle-même? Peut-elle promouvoir la réconciliation des personnes et des groupes sans favoriser l'oubli des crimes ou entretenir le souvenir sans réveiller le désir de vengeance? On peut affirmer que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bon de pardonner quand on a subi quelque offense que ce soit, de la plus petite à la plus énorme. On dit même qu'il faut pardonner. Pourtant, cela paraît bien souvent difficile, voire impossible. Je ne peux pas lui pardonner. Ou je ne pardonnerai jamais, entend-on souvent. Pourquoi est-ce si difficile? Une offense provoque souvent un sentiment d'humiliation et de honte, car on peut se sentir bien petit et seul face à l'offense. La honte porte souvent des masques. On la retrouve dissimulée sous la colère, la victimisation et le perfectionnisme, entre autres. La colère et le besoin de se venger servent souvent à masquer la honte. Au lieu de l'accepter, l'offensé honteux et humilié réagit en voulant à son tour humilier l'offenseur.
Nous avons tous besoin de demander le pardon de Dieu pour notre peu de foi qui est si souvent fragile, pour notre espérance qui si souvent se trouve affaiblie, pour notre charité qui est si souvent froide et insensible, et pour notre adoration qui est si souvent languissante. Nous demandons pardon pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'adorent pas, pour ceux qui n'espèrent pas, et pour ceux qui n'aiment pas, et si souvent nous sommes parmi ceux-là.
Lucie, il y a plusieurs degrés dans le pardon. Pardonner quelqu'un qui vous a marché sur les pieds n'est pas très difficile. Mais pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, qui nous a trahis ou calomniés, nous avons tous traversé cela un jour. Spontanément, naturellement, nous réagissons par la vengeance, nous cultivons en nous un sentiment d'injustice, nous nous persuadons que nous sommes malheureux. Nietzsche disait que les chrétiens pardonnent parce qu'ils n'ont pas le courage de se venger. Pardonner et se souvenir, n'est-ce pas incompatible? Quand on a été blessé profondément, au moins deux sujets de réflexion s'imposent: la guérison de la blessure et le pardon. Personne ne se pose sérieusement la question sur la nécessité de guérir la blessure, mais plutôt celle du comment. Cependant, la question sur le besoin et le devoir de pardonner est très actuelle. La Shoah a fait surgir le doute sur le devoir de pardonner en demandant s'il existe un mal impardonnable. Dans le temps d'après-guerre, la conviction se répandait en effet que pardonner les crimes de guerre signifierait la banalisation du mal. Il y a bien des offenses qu'on ne saurait oublier. On ne peut pas demander aux victimes d'un attentat ou aux parents dont le fils a été assassiné d'oublier quel mal leur a été fait et qui en est l'auteur. Il est normal et il est sain qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu, voire qu'ils revendiquent le droit de ne pas laisser tomber dans l'oubli les événements dont ils ont été victimes. Dans certains cas, on parle même de devoir de mémoire. Cela signifie-t-il qu'il y a des offenses qu'on ne saurait pardonner?
C'est précisément dans des occasions comme celle-là qu'il nous faut offrir notre pardon à notre frère qui vient nous le demander. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et elle leur présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire. Matthieu 5, 23, 25. Ces paroles de Jésus nous montrent que Dieu veut à la fois le pardon et la réconciliation, et seulement ainsi notre offrande, notre prière et notre sacrifice seront agréables à Dieu et acceptés de lui. Il faut que notre pardon soit généreux, sincère et venant du cœur, en donnant des preuves de ce pardon afin que, de la même façon, Dieu nous pardonne à nous aussi. Telle est la doctrine de notre divin Maître. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Matthieu 6, 14, 15. Devant ce que Jésus nous dit ici, le pardon à notre prochain est la condition indispensable pour que nous obtenions le pardon de Dieu. C'est pourquoi le message nous fait demander à Dieu le pardon pour nos frères et pour nous-mêmes.
Je vais te raconter ce qu'elle a dit. C'est un secret. Écoute. J'ai demandé à Notre-Dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors elle m'a répondu. Oui, Lucia. Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite. Puis elle a dit. Toi, tu resteras parmi les tiens pour me faire connaître et me faire aimer par tous. Oh, j'ai eu tant de peine que je lui ai demandé. Mais alors, je vais rester seule.
Et qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Elle a dit, non, ma fille. Je souffre beaucoup, mais sache que je ne t'abandonnerai jamais.
Lucie, dans la Bible, au Lévitique 24, 19-22, il est écrit « Si un homme blesse un compatriote, comme il a fait, on lui fera. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel le dommage que l'on subit. Qui frappe un animal en doit donner compensation, et qui frappe un homme doit mourir. La sentence sera chez vous la même qu'il s'agisse d'un citoyen ou d'un étranger. » Sous des formes analogues, les grandes philosophies rationalistes refusent le pardon. Pour Spinoza, il importe de ne jamais permettre aux méchants de tirer avantage des maux commis en échappant à la justice et, de manière très voisine, Kant assimile le pardon à l'impunité, forme suprême de l'injustice. L'un et l'autre écartent l'esprit de vengeance. Kant, au moment où il condamne la molle indulgence, en rappelle à ce qu'il nomme le pardon, mais qui est en réalité seulement le refus de l'implacabilité dans l'application de la peine et non pas l'effacement de la trace de l'offense. Parce que le pardon est contingent, gratuit, il paraît arbitraire et impossible à universaliser. C'est pourquoi le kantisme lui dénie tout fondement. Aussi a-t-on pu soutenir que le pardon est impossible à qui veut penser, vivre et agir rationnellement, objectivement, avec cohérence et rigueur. Le philosophe ne se venge pas, mais ne peut pas pardonner.
La réponse de Jésus est « Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, je vous dis de ne pas vous venger du méchant, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Matthieu 5, 38, 39. Dieu est miséricordieux et il est toujours prêt à nous pardonner s'il voit en nous le repentir et l'intention de nous corriger. À Sainte Marie-Madeleine, le Seigneur a dit « Tes péchés sont remis, ta foi t'a sauvé, va en paix » Luc 7, 48, 50. Et aux pharisiens qui nourrissaient des réserves sur cette femme, doutant de la tolérance et de la bonté de Jésus, celui-ci a dit « Ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Luc 7, 47. Le Seigneur a vu dans les yeux de Marie-Madeleine les larmes qui lui baignaient le visage. Il a vu dans ses cheveux et dans le parfum dont elle l'a oint son détachement des vanités de la terre et le changement de sa vie. Il a vu dans son cœur la douleur et le repentir avec l'intention de s'amender. C'est pourquoi il lui a dit « Tes péchés sont remis ». Quand elle vit le Christ, Marie-Madeleine crut en lui et l'aima. C'est cette foi et cet amour qui lui ont fait haïr le péché, pleurer, mépriser les vanités du monde et changer de vie. Et le Seigneur a pris plaisir à tout cela et il a conclu « Ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Ta foi t'a sauvé, va en paix. » C'est la foi et l'amour qui doivent nous conduire à détester nos péchés, à nous en repentir et à changer notre vie pour que Dieu nous dise, comme à Marie-Madeleine, « Tes péchés sont remis. »
Lucie, l'homme qui mène la vie la plus malheureuse, qui commet les plus grands crimes et tient la conduite la plus injuste, qui réussit à se mettre au-dessus des avertissements, des corrections, des punitions, et donc celui qui garde son injustice au lieu de s'en débarrasser. La plupart des grandes philosophies évacuent le pardon de leur territoire, non sans s'appuyer sur de solides arguments. Ainsi, les stoïciens ont toujours pris soin de refuser le pardon en avançant deux motifs. D'abord, le sage ne doit pas se laisser dominer par ses émotions, quelles qu'elles soient, car la raison doit toujours l'emporter. Non seulement nous ne devons pas céder à la colère ou à la haine, mais le chagrin, la compassion, la pitié sont autant de concessions à la passion et de recul de la raison. Cependant, ajoute Épictète, si nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver un sentiment, il est préférable que ce soit la pitié plutôt que la haine qui l'emporte. La seconde objection adressée au pardon est son injustice, en quelque sorte structurelle. En effet, la remise d'une peine méritée, accordée selon le bon vouloir de l'offensé, du juge ou du prince, vient perturber l'ordre juridique et même le contredire, puisque la règle du droit ne serait pas la même pour tous. Cependant, l'attitude stoïcienne, par la voix de Sénèque par exemple, recommande la sévérité mais exclut la cruauté. Elle refuse le pardon, mais invite à la clémence. Maîtrise de soi, lorsqu'on a le pouvoir de punir, elle réclame la justice, mais ne veut point la vengeance. Elle applique le droit, mais tient compte des circonstances atténuantes. Elle punit, mais sait remettre partiellement les peines pour permettre un nouveau départ à certains accusés.
À la femme adultère, Jésus a dit « Personne ne t'a condamné ?» Mais elle dit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Jean 8, 10, 11. Le Seigneur a vu dans le cœur de cette femme le repentir et l'intention de changer de vie. C'est pourquoi il promet de ne pas la condamner et lui donne le pardon sous condition, cependant, qu'elle ne pêche plus. « Va, désormais ne pêche plus. » C'est en ce sens que, s'adressant aux Juifs pour lesquels il était suffisant de sembler bon aux yeux des autres, sans le souci de l'être vraiment aux yeux de Dieu. Dieu qui, par l'intermédiaire de ses envoyés, ne cessait de les appeler à lui par le repentir et le changement de vie, Jésus a dit de tous les autres qui, comme cette femme adultère, se repentent, changent de vie et font pénitence. Les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. Matthieu 21, 31.
Lucie, en Ukraine, loin des fronts chauds de l'Est ou du Sud, la guerre met à rude épreuve les familles. Les hommes qui sont à l'armée s'angoissent souvent pour leurs familles. Parfois, des femmes qui sont parties se réfugier à l'étranger rencontrent un autre homme. De plus en plus, nous pouvons entendre des récits de familles qui explosent, et de couples qui divorcent au point qu'il faut mettre en place des dispositifs spécifiques de prévention du suicide. Les traumatismes et leurs conséquences psychologiques vont durer 35 ou 40 ans au minimum. Tout ce qu'il s'est passé va se transmettre de génération en génération. On en reparlera encore dans 100 ans. Depuis le 24 février 2022, l'Ukraine est devenue une société fortement militarisée. Face à l'agression russe, les hommes sont appelés à s'engager dans les forces armées et à se battre. S'ils ne le font pas, les discours officiels et l'ambiance qui règne dans le pays les incitent à montrer qu'ils résistent à l'agresseur d'une manière ou d'une autre. Cette pression sociale met à rude épreuve la résistance psychologique de tout un chacun. Dans l'Ukraine en guerre, les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent quitter le pays sans autorisation spéciale. À la clinique des vétérans de guerre, dans les bois enneigés près de Kiev, les soldats suivent des entraînements pour surmonter leur détresse psychologique. Quelques-uns reviennent de captivité et parfois ont été torturés. L'Organisation mondiale de la santé estime que 10 millions d'Ukrainiens, soit un quart de la population, sont exposés à diverses formes de troubles mentaux. En Ukraine, l'organisation s'attache à former tous les personnels médicaux aux thématiques liées à la santé mentale et souhaite s'en occuper dès à présent sans attendre l'après-guerre. Quelle place peut prendre le pardon dans cette situation?
Il est vrai que les Juifs avaient l'habitude d'offrir à Dieu des sacrifices pour leurs propres péchés et qu'ils immolaient des animaux comme victimes. Mais ils ne comprenaient pas le précepte de la charité, surtout envers les pauvres et les exclus, les orphelins et les veuves qu'ils abandonnaient souvent sans secours ni justice, alors que pour eux-mêmes, ils invoquaient du ciel la justice et le secours. Dieu, cependant, leur répondit « Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Mon jugement surgira comme la lumière, car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. En effet, comment un sacrifice extérieur peut-il plaire à Dieu si nous ne lui offrons pas le sacrifice intérieur du pardon envers nos frères ?»
Lucie, le mois dernier, un grave accident de la circulation s'est produit mettant en cause le conducteur d'une voiture sous l'emprise de stupéfiants. Trois blessés graves sont à déplorer, ainsi que le décès du bébé d'une passagère enceinte de 7 mois. Le conducteur mis en cause se dit dévasté et qu'il assurera toutes les conséquences de ses actes. Mais l'avocat de la famille des victimes de l'accident dit que celles-ci sont insensibles à ses excuses.
Parce que souvent cet acte de vertu n'est pas bien compris. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile « Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux » et non le sacrifice » Matthieu 9, 13. Oui, nous avons besoin de comprendre ce que sont la miséricorde et le pardon aux autres. Ce pardon doit jaillir de notre cœur comme le fruit de l'amour que nous devons à Dieu et à notre prochain par amour envers Dieu, tout comme l'amour jaillit du cœur de Dieu envers nous. Un jour, saint Pierre demanda à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. « Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 22. Cela veut dire que nous devons pardonner toujours.
Écoutons maintenant la bouleversante histoire de pardon de la petite fille au napalm. À travers ce que j'ai vécu comme enfant, ma vie a été métamorphosée. J'ai découvert énormément de choses et malgré la souffrance, je suis reconnaissante. J'ai appris à pardonner, confie aujourd'hui Kim Phung Pong Thi. En vietnamien, son prénom signifie « bonheur doré ». Pourtant, Kim Phuc, plus connue comme la petite fille de la photo, n'a pas grandi dans l'opulence. Le bonheur, elle a dû batailler pour le rencontrer. Qui ne se souvient pas de cette photo d'une enfant courant nue sur une route, un épais nuage de fumée derrière elle en pleine guerre du Vietnam? Le 8 juin 1972, âgée de 9 ans, Kim vient d'être sauvagement brûlée à la suite d'une attaque au napalm. Immortalisée par Nick Hutt, un jeune photographe de l'Associated Press, son image a fait le tour du monde. 47 ans plus tard, après 14 mois d'hospitalisation, 17 interventions chirurgicales, mais surtout une conversion complète du cœur, elle vit au Canada. Désormais épouse et mère de famille, elle a fait un court passage à Paris début octobre pour parler de son livre « Sauvée de l'enfer ».
Pourquoi moi ? Abîmée, souffrante, à fleur de peau dans tous les sens du terme, l'enfant puis la jeune femme qu'elle est devenue court après une raison de vivre et une réponse à ses questions lancinantes. Pourquoi moi ? Pourquoi tant de souffrances de façon continue ? Élevée dans le caodaïsme, une religion syncrétiste qui s'est développée au Vietnam dans les années 1920, elle recherche alors la paix à travers la religion, la famille et l'école, mais elle fait chou blanc. Elle songe à mettre fin à ses jours avec l'espoir qu'elle cessera de souffrir, tant physiquement que moralement. J'étais perdue. Le napalm ne m'a pas tuée, mais la colère et l'amertume ont failli le faire. Ne trouvant aucune solution à cette quête, j'ai fini par aller à la bibliothèque de Saïgon, où j'ai cherché tous les livres imaginables, raconte-t-elle. À l'âge de 19 ans, elle fait une rencontre déterminante. Je suis tombée sur le Nouveau Testament. Ce livre était différent. Plus je le lisais, plus j'avais de questions. Elle tombe sur un verset de l'Évangile de Saint Jean. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne s'en va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14, 6. Elle n'est déjà plus la même.
Je recherchais la paix et je portais un fardeau bien trop lourd pour une personne de mon âge. Je me suis converti au christianisme et cela a été un grand basculement dans ma vie. J'ai commencé à ressentir la paix et la joie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ces bombes m'avaient mené vers Dieu. Quel choc, lança-t-elle. À Noël 1982, elle entre dans une église. Le message du pasteur la percute de plein fouet. Il disait que Dieu était mort sur la croix pour expier nos péchés et que si nous ouvrions notre cœur et que nous l'acceptions comme notre sauveur personnel, il nous déchargerait de nos fardeaux et nous donnerait la paix. Justement, je recherchais la paix et je portais un fardeau bien trop lourd pour une personne de mon âge. Je me suis converti au christianisme. Un sacré basculement dans sa vie. Elle commence enfin à ressentir paix et joie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ces bombes m'avaient mené vers Dieu. Je ne peux pas remonter le temps et je suis aujourd'hui reconnaissante que cela me soit arrivé. Je sais quand je mourrai, j'irai au ciel.
Le lent chemin du pardon. La transition n'a pas été simple pour autant. La haine qui envahit le cœur de la jeune femme ne disparaît pas en un clin d'œil. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Mais au début, il m'était impossible de pardonner. Je me suis dit que j'allais faire de mon mieux. En premier lieu, j'ai cessé de me demander pourquoi et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai fait confiance car je savais qu'il pouvait accomplir l'impossible. J'ai appris à devenir quelqu'un de positif et à dire non aux pensées négatives. J'avais la liste de tous mes ennemis que je maudissais. Elle est devenue la liste de mes prières. Plus je priais pour mes ennemis qui étaient la cause de mes souffrances, moins je souffrais. Mon cœur a été libéré et j'ai ressenti comme le paradis sur terre. Aujourd'hui, si ces cicatrices continuent encore à la faire souffrir, son cœur est quant à lui entièrement guéri. Elle est, comme elle se plaît à le dire, pleine de gratitude.
En 1996, lors d'une conférence à Washington, Kim rencontre John Plumer, l'homme qui a coordonné l'attaque au napalm de son village. J'ai appris à pardonner, mais le vrai test qui montrait que mon cœur avait changé a été ce jour-là à Washington. Il pleurait comme un enfant. « Me pardonnez-vous ? » Je lui ai répondu « Oui, je vous pardonne. C'est bien pour cela que je suis ici. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré. » 3 heures plus tard, nous avons échangé plus longtemps à l'hôtel. C'était un vrai soulagement pour chacun de nous et une vraie réconciliation. Aujourd'hui, nous prions l'un pour l'autre.
Ces cicatrices marquent son corps telle une mémoire. Elles me rappellent combien j'ai reçu de bénédictions. Je suis toujours en vie et je peux partager mon histoire alors que tant d'autres enfants sont morts. Son leitmotiv, nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais tâchons de promouvoir la paix. Aujourd'hui ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO, elle a créé en 1997 la Kim Pung Foundation. C'est un honneur et un privilège de pouvoir aider les gens. Maintenant, je voudrais rendre ce que l'on m'a donné et inviter les autres à se réconcilier.
Toute notre vie se déroule sous le regard et le pardon de Dieu. Notre baptême déjà nous a plongés dans sa miséricorde. Puis Dieu, notre Père, a pardonné les fredaines de notre enfance, les faux pas et les impatiences de notre jeunesse. Il pardonne encore, sans se lasser, les chutes plus lourdes de l'adulte, quand les tentations ou les leurres du midi de la vie viennent ravager les cœurs, les foyers, les familles et les communautés, laissant le croyant ou la croyante désemparés devant le gâchis de leur existence. Il pardonne, enfin, au soir de la vie, tous les réflexes de repli ou d'amertume, tous les manques de confiance, toutes les compromissions avec la tristesse. Merci, Lucie, de nous avoir laissé tous vos écrits qui nous sont d'un grand secours aujourd'hui.
Le Saint-Père nous demande de revenir sur la prière la plus familière et la plus intime du peuple de Dieu, le « Je vous salue Marie », particulièrement sur la demande « Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». Marie répond toujours à cette invocation. Elle écoute nos demandes, nous bénit avec son Fils dans les bras, nous apporte la tendresse de Dieu fait chair.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nous vous donnons rendez-vous pour le samedi 22 avril à 10h10. Lucie nous parlera de l'appel au sacrifice.
Prions le Seigneur pour que nous aidions nos frères dans la souffrance, afin que celle-ci change de signe. Au lieu d'être source de révolte, elle devient chemin de rédemption.
Prions ensemble avant de nous quitter, afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs?
Oui, nous le voulons.
Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'Appel de Fatima avec Bernard et Christine Storm. Notre thème d'aujourd'hui, l'appel au pardon. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.